Alors que la colonne s'ébranlait, Elaine tourna la tête vers Avienda et Birgit. La statuette de la femme assise dans une main, Laïelle se tenait bien droite, les bras croisés. Tenant par la bride Lyonne, sa propre monture et celle d'Avienda, la championne alla s'asseoir sur un petit rocher, à une vingtaine de pas de son Aes Sedai.
« Vous devez… »
commença Elaine. Voyant Avienda froncer les sourcils, elle n'alla pas plus loin. Expédier Laïelle loin du danger était impossible, sauf à vouloir la couvrir de honte. Et encore.
« Birgit, je veux que tu ailles rejoindre les autres, avec Lyonne. Avienda et moi, nous chevaucherons son ongre à tour de rôle. J'aime bien marcher un peu avant de me mettre au lit. Si tu traites un jour un homme la moitié aussi bien que cette jument, il t'appartiendra corps et âme. Je crois que je vais rester ici un moment. Trop de temps passé sur une selle aujourd'hui. Tu sais, je ne suis pas en permanence à tes ordres. Devant les sœurs et les autres champions, nous jouons à ce petit jeu pour t'épargner des humiliations. Mais entre nous, il n'y a pas de malentendu. »
Malgré l'ironie de sa championne, Elaine capta une très profonde affection. Non, plus que de l'affection. Soudain, les yeux de la fille héritière la picotèrent. Sa mort aurait profondément bouleversé Birgit. Ça, c'était le lien qui l'imposait. Mais si elle restait, en ce jour, c'était par amitié.
« Je remercie la lumière d'avoir deux amis comme vous, »
souffla Elaine. Birgit lui sourit, comme si elle venait de dire une énormité. Avienda, elle, s'empourpra, puis regarda la championne comme si c'était à cause d'elle qu'elle avait les joues en feu, pas du compliment d'Elaine. Gênée, elle tourna la tête vers la colonne qui approchait déjà d'une première colline.
« Mieux vaut attendre qu'il n'y ait plus personne en vue, »
dit-elle.
« Mais tu ne pourras pas patienter trop longtemps. Une fois le détissage commencé, les flux commencent à devenir glissants. En laisser échapper un avant qu'il soit hors du tissage, revient à lâcher tout le construct, qui se transforme alors comme ça lui chante. Mais ne te précipite pas non plus. Chaque filament doit être dénoué autant que c'est possible. Plus tu en détacheras du tissage, plus il te deviendra facile de voir les autres. Mais il faut toujours saisir celui qui est le plus visible. »
Souriante, Avienda posa les doigts sur une joue d'Elaine.
« Si tu es prudente, tu t'en sortiras bien. »
A priori, ça ne semblait pas si difficile. S'il suffisait de se montrer prudente. Après ce qui parut être une éternité, la dernière femme, la noble balafrée et chargée comme un baudet, disparut derrière la colline. En réalité, le soleil n'avait pratiquement pas bougé dans le ciel. Mais on eût dit que des heures s'étaient écoulées. Que voulait dire Avienda avec son « glissant » Sans doute que les flux devenaient difficiles à tenir, sinon quoi d'autre? Dès qu'elle se remit à l'ouvrage, Elaine comprit pourquoi Laïelle avait utilisé cet adjectif. Pour saisir, il suffisait d'avoir une fois dans sa vie essayé de serrer entre ses mains une anguille vivante et enduite de graisse. Le premier filament exigea de la fille héritière une concentration épuisante. Déjà que le retirer du tissage était délicat, quand elle eut fini, ce filament d'air se retrouvant finalement libre de toute attache, elle faillit soupirer de soulagement, mais renonça lorsqu'elle songea à ce qu'il lui restait à faire. Si les flux devenaient encore plus glissants, le succès serait loin d'être garanti. Ne ratant rien de la délicate opération, Avienda ne dit plus un mot, mais afficha un sourire encourageant chaque fois que la fille héritière en eut besoin. Sans voir Birgit, car elle ne voulait pas détourner les yeux de son ouvrage, Elaine sentit dans un coin de sa tête une petite montagne de confiance aussi inébranlable que le plus haut des pics. À force de suer, elle commença à se sentir aussi glissante que les flux. Un bain avant de se coucher serait le bienvenu. Non, il ne fallait pas penser à ça. Toute sa concentration sur les flux. Même s'il devenait de plus en plus dur à manipuler, il continuait à se détacher du tissage, et chaque fois qu'un filament s'en séparait, le suivant apparaissait là où Elaine ne voyait auparavant qu'un bloc solide de Saïdar. Bientôt, le portail commença à ressembler à un monstre polycéphale, gisant au fond d'une mare glauque, et entouré de tentacules pris de spasmes et hérissés d'étincelles de pouvoir qui grossissaient, crépitaient, puis disparaissaient, juste avant d'être remplacés par d'autres. Les contours de la structure se mirent à fluctuer, changeant sans cesse de forme et de taille. Les jambes tremblantes, Elaine sentit que la tension faisait picoter ses yeux autant que la sueur. Combien de temps allait-elle tenir? Elle aurait été incapable de le dire. Les dents serrées, elle continua à lutter. Un filament après l'autre. À quelque 400 lieues de là, mais moins de 100 pas si on passait par le portail, Des dizaines de soldats grouillaient dans la cour et entre les bâtiments de la ferme. Des Séanchaniens, ô combien reconnaissables à leur casque qui évoquait une tête d'insecte. Sa jupe ornée de panneaux rouges sur lesquels s'affichaient des éclairs, une femme les suivait, son bracelet relié par une chaîne argentée au collier qui enserrait le cou d'une damane. Une soule dame et son jouet. Puis un autre duo. La première soule dame désigna le portail. Aussitôt, l'aura du Saïdar brilla autour de sa damane.
« À terre !»
cria Elaine. Elle bascula en arrière juste à temps pour esquiver l'éclair bleu qui traversa le portail avec un rugissement de bête fauve. Une fois passée l'ouverture, le projectile se scinda en plusieurs segments qui jaillirent dans toutes les directions. Tous les poils se hérissèrent sur la nuque d'Elaine. Partout où les éclairs frappaient, des colonnes de poussière et d'éclats de rochers montaient dans l'air avant de retomber en pluie sur la fille héritière et ses compagnes. Le vacarme se calmant un peu, Elaine entendit une voix d'homme qui venait de l'autre côté du portail. L'accent traînant la terrifia autant que les mots prononcés.
« Les prendre vivantes, espèce d'imbécile !»
Un soldat sauta à travers le portail et atterrit juste devant Elaine. Décochée à la vitesse de l'éclair, la flèche de Birgit traversa le point fermé qui décorait la cuirasse de l'homme, au niveau du cœur. Un deuxième Séanchanien déboula dans la prairie, trébucha sur le cadavre de son frère d'armes et finit égorgé par le couteau d'Avienda avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. Coinçant sous son pied les brides de tous les chevaux, qui renâclaient comme s'ils rêvaient de fuir mais ne parvenaient pas à se dégager, l'héroïne tirait à une vitesse incroyable. Des cris, de l'autre côté du portail, indiquèrent qu'elle faisait mouche à chaque fois. La riposte ne se fit pas attendre. Un épais nuage de carreaux d'arbalète. Tout arrivait si vite. Touchée au bras droit, Avienda s'écroula, la main gauche volant d'instinct vers sa blessure. Mais Layel se ressaisit, rampa sur le côté et tâtonna à la recherche de l'angréal qu'elle avait laissé tomber. Birgit cria de douleur et lâcha son arc. Puis elle prit à deux mains sa cuisse transpercée par un carreau. Elaine sentit la souffrance, comme si c'était la sienne. Toujours étendue sur le dos, elle s'empara quand même d'un filament, tira une fois dessus et découvrit, horrifiée, qu'elle ne pourrait pas faire davantage que ça. Ce filament s'était-il déplacé? Avait-il réussi à se détacher des autres? Si c'était le cas, le lâcher serait trop dangereux. Comme une anguille, le filament se tortillait pour échapper à son contrôle.
« J'ai dit vivante !»
rappela le Séanchanien.
« Quiconque tuera une femme ne recevra pas sa part du butin !»
Les carreaux d'arbalète cessèrent de pleuvoir.
« Tu veux me prendre vivante ?»
cria Avienda.
« Alors viens danser avec moi !»
L'aura du Saïdar, faible malgré le soutien de l'Angréal, enveloppa Layel et des boules de feu jaillirent de ses mains en direction des Séanchaniens. Pas de très gros projectiles, mais suffisant pour faire de terribles dégâts là-bas en Altara. Hélas, Avienda ne tiendrait pas longtemps, épuisée comme elle l'était déjà. Brandissant de nouveau son arc, Birgit ressemblait trait pour trait à l'image que donnaient d'elle les légendes. Une femme capable de continuer à se battre alors qu'elle tenait à peine debout. Elaine tenta de réguler sa respiration. Impossible de puiser un filament de pouvoir supplémentaire. La défaite était consommée.
« Vous devez filer, toutes les deux !»
Comment sa voix pouvait-elle être si calme, alors qu'elle avait envie de pleurer ?«
Je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir contrôler ça !»
Ça valait autant pour tout le tissage que pour le filament vagabond. Celui qui devenait de plus en plus glissant.
« Vous m'avez comprise ! Partez et foncez aussi vite que possible ! De l'autre côté de la colline, vous serez en sécurité. Mais il n'y a pas un instant à perdre !»
Dans l'ancienne langue, Birgit éructa un chapelet de jurons que la fille héritière ne comprit pas. Dommage, car il semblait digne d'être mémorisé. Juste avant de mourir, probablement.
« Si tu lâches prise avant que je te le dise !»
fit Birgit dans la langue commune.
« Tu n'auras plus à t'inquiéter d'être écorché vive par Nineveh, parce que je le ferai à ta place. Peut-être en lui laissant un petit bout de toi, histoire qu'elle se défoule. Tais-toi et résiste. Avienda, approche. Oui, en passant derrière ce fichu truc. Tu peux tout maintenir de là? Alors approche et saute sur un de ces maudits chevaux, tant que je vois où tisser,
répondit Avienda, qui vacillait sur ses jambes. Elle faillit s'étaler, mais se rétablit par miracle. Du sang coulait à flot de sa blessure.
« Tu crois que je vais pouvoir ?»
dit Layel. Elle disparut derrière le portail, mais les boules de feu continuèrent à pleuvoir sur les Séanchaniens. Quand on se trouvait derrière l'ouverture, on voyait ce qu'il y avait devant, mais comme à travers un rideau de brume. En revanche, on ne pouvait pas traverser, et toute tentative aurait été douloureusement punie. Quand Avienda fut de nouveau en vue, elle titubait comme un ivrogne. Birgit l'aida à se hisser en selle, mais à l'envers. Quand Birgit lui fit signe, Elaine ne tenta pas de faire non de la tête, avant tout parce qu'elle redoutait ce qui risquait d'arriver si elle le faisait.
« Si j'essaie de me relever, »
dit-elle,
« je doute de pouvoir conserver le contrôle. »
En réalité, elle doutait surtout d'être capable de se lever. Le stade de l'épuisement dépassé, elle aurait juré que ses jambes n'étaient plus que deux colonnes de coton.
« Chevauchez ventre à terre ! Je résisterai jusqu'au bout de mes forces. Allez-y !»
Jurant toujours dans l'ancienne langue, aucune autre n'avait des sonorités pareilles, Birgit déposa les rênes de trois chevaux entre les mains d'Avienda. Puis, en boitillant, elle alla rejoindre Elaine et la prit par les épaules.
« Avant toi, je n'avais jamais rencontré une reine d'Andorre. Mais des souveraines, j'en ai connu, tu peux me croire. Tu es du genre échine d'acier et cœur de lion. Bref, tu vas réussir. »
Sans attendre de réponse, Birgit força son Aes Sedai à se relever. Malgré la douleur due à sa blessure, Elaine parvint à ne pas lâcher le tissage. Puis, non sans surprise, elle s'avisa qu'elle était debout, et toujours vivante. En avançant vers les chevaux, Birgit, la soutenant tout autant qu'elle la soutenait, consciente de la douleur de sa championne, elle s'efforçait de ne pas trop s'appuyer sur elle afin de ménager sa jambe blessée, la fille héritière garda la tête tournée en arrière. En temps normal, elle pouvait maintenir un tissage sans le regarder, mais elle avait besoin, pour se rassurer, de voir qu'elle contrôlait toujours aussi bien le filament rétif, qui ne devait surtout pas lui échapper. Emmêlée, une masse de tentacules grouillant autour, le portail ne ressemblait plus à aucun tissage qu'Hélène avait vu de sa vie. Grognant sous l'effort, Birgit hissa carrément Elaine en selle, à l'envers, comme Avienda.
« Il faut que tu vois le tissage !»
expliqua la championne, tout en clopinant jusqu'à son ongre. Elle se hissa péniblement en selle, sans lâcher ne serait-ce qu'un gémissement, mais Elaine sentit qu'elle souffrait atrocement.
« Fais ce que tu dois faire, et laisse-moi m'occuper de notre destination !»
Après avoir repris à Avienda les rênes des trois chevaux, Birgit talonna le sien. Aucune des montures ne se fit prier pour détaler. Elaine s'accrocha au trousquin de sa selle avec le même désespoir têtu qui l'empêchait de lâcher le tissage et de se couper du saïdar. Secouée comme un prunier par sa monture, elle n'avait plus la force de la prendre en main, ne pas lâcher prise. Voilà tout ce qui lui restait comme option. Le souffle court et le regard fixe, Avienda aussi se retenait à son trousquin, comme on agrippe un morceau de bois flotté dans un naufrage. Mais l'aura l'enveloppait toujours, et les boules de feu continuaient de jaillir. Plus au même rythme, certes. Certaines ratant d'assez loin le portail, mais l'essentiel restait assuré. S'inspirant de sa presque sœur, que rien ne parvenait à abattre, Elaine lutta pour reprendre un peu de ses forces. Derrière les cavalières, le portail devint de plus en plus petit, au bout d'une étendue d'herbe jaunie qui grandissait sans cesse. Puis le terrain commença à monter, le versant de la colline. Une flèche toujours encochée dans son arc, les dents serrées pour oublier sa cuisse douloureuse, Birgit talonnait follement son cheval. Si elles arrivaient au sommet, puis sur l'autre versant, Avienda gémit, s'affaissa sur les coudes et se mit à rebondir sur sa selle comme un vulgaire sac. Autour d'elle, l'aura du Saïdar se dissipa.
« Je ne peux plus, je ne peux plus. »
Les seuls mots qu'elle parvenait à prononcer. Le tir de barrage ayant cessé, les Séanchaniens déboulèrent dans la prairie, émergeant du portail.
« Ça ira !»
croassa Elaine. La gorge comme du parchemin, elle aurait juré que toute l'eau de son corps empoissait désormais sa peau et ses vêtements.
« Utiliser un angréal est épuisant. Tu t'en es bien sorti, et il ne peut plus nous rattraper. »
Comme pour faire mentir la fille héritière, une soule d'âme apparut devant le portail. Avec sa damane, bien entendu. Même de loin, on ne pouvait pas manquer de reconnaître ce terrible duo. Un autre vint rejoindre le premier, puis un autre encore, et un quatrième. Un cinquième, peu après.
« La crête !»
lança Birgit.
« Ce soir, pour moi, ce sera du bon vin et un type bien bâti !»
Dans la prairie, une soule d'âme tendit un bras. Elaine eut l'impression que le temps ralentissait son cours. Dès que l'aura du Saïdar se fut formée autour de la damane, un tissage devint visible. La fille héritière l'identifia et sut qu'il n'y avait pas de défense.
« Plus vite !»
cria-t-elle. Le bouclier la frappa. En principe, elle aurait dû être trop puissante pour ce tissage, mais dans son état de fatigue, elle ne réussit pas à le neutraliser, et il la coupa de la source. Aussitôt, le construct qui avait été un portail s'effondra sur lui-même. Blanche comme une morte, Avienda bondit de sa selle, se jeta sur Elaine et l'entraîna dans sa chute. Avant de tomber, la fille héritière eut juste le temps de voir le début du versant descendant de la colline. Une lumière blanche l'aveugla. Il y eut du bruit. Le contraire était impossible, mais sans doute trop fort pour qu'elle puisse encore l'entendre. Puis elle eut le sentiment de percuter quelque chose de très dur, après être tombée du sommet d'une tour. Ouvrant les yeux, elle découvrit le ciel, mais étrangement brouillé. D'abord incapable de bouger, elle gémit de douleur quand elle y parvint. Son corps n'était plus que souffrance. Lumière, quelle torture! Quand elle eut lentement levé une main jusqu'à ses yeux, elle vit que ses doigts étaient rouges de sang. Les autres, elle devait aider les autres. Birgit aussi souffrait, mais au moins, elle s'en était sortie. Furieuse et vibrante de détermination, elle ne devait pas être grièvement blessée. Quant à Avienda, se redressant sur les mains et les genoux, Elaine rampa sur le sol. Prise de vertige, une douleur semblable à un coup de poignard dans le flanc droit, elle se souvint vaguement que bouger avec une seule côte cassée pouvait être très dangereux. Mais cette pensée lui semblait aussi floue que son environnement. Réfléchir semblait hors de portée. En revanche, cligner des yeux améliorait son acuité visuelle. Un peu. Apparemment, elle avait roulé jusqu'au pied de la colline. Au-dessus de la crête, une colonne de fumée montant de la prairie s'élevait dans le ciel. Sans importance, ce détail. Sans aucune importance. Une trentaine de pas plus haut sur le versant, Avienda rampait elle aussi. Et elle faillit tomber lorsqu'elle leva une main pour essuyer le sang qui coulait de son front. Quand son regard tomba sur Elaine, elle se pétrifia.
« Je suis en si mauvais état que ça ? Pas pire qu'elle, en tout cas. »
Sa jupe et son chemisier déchirés, la yelle avait du sang partout. Elaine rampa vers sa presque sœur. Avec ses vertiges, ça semblait plus raisonnable que se lever et tenter de marcher.
« Tu es entière !»
soupira Avienda, posant le bout des doigts sur la joue de son amie.
« J'ai eu si peur !»
Elaine en sursauta de surprise. Entière, certes, mais tout aussi mal en point que sa presque sœur. Si sa jupe semblait intacte, son chemisier était en lambeaux, et elle saignait d'une multitude de plaies. Mais elle n'avait pas été carbonisée dans l'aventure. S'avisa-t-elle soudain. Une chance incroyable.
« Nous sommes entières, toutes les deux !»
dit-elle. Un peu plus loin, Birgit finit d'essuyer la lame de son couteau sur la crinière du hongre d'Avienda, puis elle s'écarta du cheval inerte. Le bras droit pendant, elle avait perdu sa cape et lui manquait une botte. Couverte de sang comme ses compagnes, elle ne portait plus que des habits en lambeaux. Le carreau d'arbalète planté dans sa cuisse paraissait être la blessure la plus grave. Mais c'était loin d'être la seule.
« L'échine brisée !»
dit-elle en désignant le hongre mort.
« Mon cheval est indemne. Mais la dernière fois que je l'ai vu, il galopait assez vite pour gagner haut la main la couronne de Megairil. J'ai toujours dit qu'il était fait pour la course. Elaine, Lyon était morte quand je l'ai trouvée. Désolée.
Nous sommes vivantes,
dit Elaine.
Et c'est ce qui compte.
Plus tard, elle pleurerait sa jument.
Je veux voir ce que j'ai fait exactement.
Dans le ciel, la fumée n'était pas noire, mais elle couvrait une large zone. Les trois femmes durent se soutenir les unes les autres, et l'ascension fut une épreuve, même pour Avienda. On eût dit qu'elle avait été fouettée à mort, enfin presque, puis qu'elle s'était roulée sur le sol de l'arrière-boutique d'une boucherie. Avienda serrait toujours dans son poing le petit angréal, mais même si elle avait été plus douée qu'Elaine pour la guérison, elle n'était pas davantage en état de s'unir à la source, et encore moins de canaliser. Arrivées au sommet de la colline, se donnant toujours les unes aux autres, les trois femmes constatèrent les dégâts. Encore embrasée sur son périmètre, la prairie était entièrement calcinée à l'intérieur, et les rochers eux-mêmes semblaient avoir fondu. Sur les collines avoisinantes, tous les arbres étaient déracinés ou brisés. Dans le ciel, des flocons planaient sur les courants chauds générés par les incendies. Ces oiseaux chassaient souvent ainsi, guettant les petits mammifères chassés de leur tanière par les flammes. Aucun signe de ces Anshaniens. Elaine aurait préféré qu'il y ait des cadavres, afin d'être sûr que tous avaient péri, en particulier les Suldam. Mais en regardant mieux le sol noirci et ratatiné, elle changea d'avis. Mieux valait qu'il n'y ait plus rien. Ces gens avaient connu une mort atroce. La lumière et pitié de leurs âmes.
Avienda, je n'ai pas détissé aussi bien que toi. Mais ce n'est pas plus mal, tout bien pesé. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux.
Une joue ouverte, le front entaillé, la Yel coula un regard de biais à son ami.
Pour une première fois, tu m'as battu à plate couture. Moi, je me suis entraîné sur un simple nœud dans un flux d'air. Il m'a fallu 50 essais avant de réussir sans encaisser un choc en retour plutôt violent. J'aurais dû commencer par quelque chose de plus simple,
concéda Elaine.
Ma vieille tendance à plonger de trop haut.
De trop haut ? Elle avait plongé sans même s'assurer qu'il y avait de l'eau, oui. Elle étouffa un gloussement, mais pas assez tôt pour éviter un élancement dans son flanc. Du coup, elle renonça à rire et marmonna entre ses dents. Certaines lui semblant un peu branlantes, aurait-on dit.
Au moins, nous avons découvert une nouvelle arme. Je ne devrais pas m'en réjouir, mais puisque les Seanchaniens sont de retour, je n'hésite pas. Tu ne comprends pas, Elaine,
fit Avienda. Elle désigna le centre de la prairie, où s'était dressé le portail.
Il aurait pu y avoir seulement un éclair, ou même moins que ça. On ne peut jamais savoir avant. Un banal éclair vaut-il le risque de te carboniser et de faire subir le même sort à toutes les femmes présentes auprès de toi ?
Elaine dévisagea sa presque-sœur. Elle était restée alors qu'elle savait ça ? Perdre la vie était une chose, mais risquer de ne plus être capable de canaliser...
Avienda, je veux que nous devenions des premières sœurs adoptives, dès que nous mettrons la main sur une matriarche.
Quant à ce qu'elle ferait au sujet de Rand, eh bien, elle n'en avait pas la première idée. Envisager qu'elle l'épouse toutes les deux, et Mine aussi, était au-delà du ridicule. En revanche, sur son lien avec la Yel, Elaine n'avait plus aucun doute.
Je n'ai plus besoin d'en apprendre plus sur toi. Je veux être ta sœur.
Elaine posa un baiser sur la joue maculée de sang d'Avienda. Avant cet instant, elle avait cru voir rougir la Yel en quelques occasions. Dans son peuple, même les amants ne s'embrassaient pas en public. Un coucher de soleil aurait paru palichon comparé au teint rouge vif d'Avienda.
Je te veux également pour sœur, Elaine.
En jetant un coup d'œil de biais à Birgit, qui faisait mine d'être sourde et muette, Avienda se pencha et posa aussi les lèvres sur la joue de sa presque sœur. Pour ce geste, Elaine l'aima encore plus que pour le sacrifice qu'elle avait été prête à consentir.
Quelqu'un approche,
annonça Birgit, qui n'avait peut-être bien pas fait semblant de regarder ailleurs.
Lan et Nineveh, si je ne me trompe pas.
En gémissant, Elaine et Avienda se tournèrent pour regarder dans la direction qu'indiquait l'archère. Enfin, c'était vexant. Dans les récits, les héros n'étaient jamais amochés au point de ne presque pas tenir debout. Au nord, deux cavaliers devinrent brièvement visibles entre les arbres. Un grand type monté sur un étalon et une femme perchée sur une bête plus petite, tous deux galopant à un train d'enfer. Avec mille précautions, les trois éclopés s'assirent à même le sol pour attendre leurs amis. Une autre chose que ne font jamais les héros, songea Elaine, désabusée. Avec un peu de chance, elle ferait honneur à la mémoire de sa mère une fois couronnée. En revanche, elle n'était pas taillée pour devenir une héroïne. Chulainn tira doucement sur ses rênes. Segani réagit aussitôt, virant en souplesse sur l'aile. Ce Raken, vif et agile, était très bien dressé. Son favori, même si elle déplorait de n'être pas sa seule cavalière. Mais il y avait toujours plus de Morat Raken que de Raken, il fallait s'y résigner. En bas, où s'étendait la ferme, des boules de feu jaillissaient apparemment de nulle part. Chulainn s'efforçait de ne leur accorder aucune attention. Sa mission consistait à surveiller les alentours de la ferme et à prévenir si elle voyait arriver des ennuis. Mais tout était calme. La fumée ayant même cessé de s'élever de l'oliveraie, où Tawan et Maku s'étaient écrasés. À 3000 pieds d'altitude, la vue portait vraiment très loin. Les autres Raken surveillaient la région, en quête de toute femme en train de courir, et donc virtuellement coupable d'être la cause de cette agitation. Encore que, dans ce pays, n'importe quel innocent apercevant un Raken en vol se mettrait sûrement lui aussi à courir. Chulainn devait veiller au grain et rien de plus. À tout prendre, elle aurait préféré ne pas avoir ces démangeaisons entre les omoplates. Un indice très sûr que des problèmes s'annonçaient. À cette vitesse, l'air déplacé par le vol de Segani n'était pas très froid. Pourtant, Chulainn tira sur les cordons de sa capuche en toile cirée imperméable. Vérifiant ensuite la sangle qui tenait sa selle, elle ajusta ses lunettes de cristal et remonta au maximum ses gants. Plus de 100 points du ciel étaient déjà sur le site. Plus important encore, il y avait 6 souldames avec leurs damanes, et une dizaine d'autres portaient des sacs à dos remplis d'adames de rechange. Avec des renforts, le second vol décollerait des collines situées un peu plus loin au sud. Il aurait mieux valu une force plus importante pour le premier assaut. Mais les Heilénés disposaient d'assez peu de Thoraken, et selon des rumeurs insistantes, ceux-ci étaient massivement utilisés pour transporter la haute dame Souroth et toute sa suite d'Amadicia en Altara. Avoir des pensées désobligeantes au sujet du sang n'était pas bien, mais Chulain aurait vraiment préféré qu'on envoie directement les Thoraken à Eboudar. Aucun Mora Traken ne pensait grand bien des bêtes de bas volantes, rien à voir avec les splendides Raken, mais en procédant ainsi, il y aurait déjà eu beaucoup plus de points du ciel et de Souldam à terre.
« On prétend qu'il y a des centaines de marades d'Aman dans cette ferme !»
dit Elia dans le dos de Chulain, d'une voix très forte, parce que dans le ciel, à cause du déplacement d'air, il fallait toujours crier.
« Tu sais ce que je ferais avec ma part de l'or du butin ? Eh bien, je m'achèterais une auberge. Et Boudar m'a l'air d'une très jolie ville, pour le peu que j'en ai vu. Qui sait ? Je me trouverai peut-être un mari, puis je ferai des enfants. Qu'en penses-tu ? »
Chulain sourit, sous son écharpe coupe-vent. Tous les Moratraken masculins parlaient d'acheter une auberge, ou une taverne, voire une ferme. Mais qui aurait pu renoncer à l'ivresse du ciel ? Chulain tapota la base du long cou à la texture de cuir de Segeni. En revanche, les Moratraken féminines, les trois quarts des effectifs, rêvassaient à un mari et à des enfants. Mais devenir mère impliquait de ne plus voler. Chaque mois, pas mal de femmes quittaient les points du ciel. En revanche, très peu se résignaient à dire adieu au ciel.
« Je pense surtout que tu devrais garder l'œil bien ouvert !»
marmonna Chulain. En réalité, un peu de bavardage ne faisait aucun mal. Chulain aurait pu repérer un enfant qui courait dans une des oliveraies. Alors une menace pour les points du ciel. Ces soldats d'élite, les plus légèrement équipés de l'armée, étaient aussi durs que les gardes de la mort, et peut-être même encore plus.
« Moi, j'utiliserai ma part pour acheter une damane et engager une souldame. »
S'il y avait en bas seulement la moitié des marats d'Aman qu'on annonçait, Chulain aurait assez d'or pour s'acheter 2 damanes. 3, pourquoi pas.
Une damane capable de faire des lumières célestes. Quand je me retirerai du vol, je serai aussi riche que quelqu'un du sang.
Sur ce continent, il existait des feux d'artifice. À Tanchico, des gens avaient en vain essayé de vanter ce spectacle à des membres du sang. Mais qui pouvait s'intéresser à de minables divertissements, tellement inférieurs aux lumières célestes ? Ces marchands avaient été promptement chassés de la cité, avec l'ordre de ne plus jamais y revenir.
« La ferme, en bas !»
cria soudain Elia. Quelque chose frappa Segeni. Un choc très violent, plus rude que lors des pires tempêtes, déséquilibra le Raken qui partit en vrille. Tandis que Segeni tombait en criant, tournant si vite sur lui-même que son harnais de sécurité la plaqua sur sa selle, Chulain garda les mains posées sur sa cuisse, sans lâcher les rênes. Mais sans les tendre non plus. Segeni allait devoir s'en sortir seul, et toute traction sur les rênes l'aurait gêné. Même quand leur monture tournait comme une toupie, les Moratraken étaient formés à ne pas regarder le sol. Pourtant, chaque fois qu'une rotation lui en offrit la possibilité, Chulain ne put pas résister à la tentation d'évaluer la distance qui les en séparait. 2000 pieds, 1800, 1200, 1000.
Que la lumière illumine mon âme et que le Créateur, dans son infinie bonté, me protège de
300 pieds. D'un coup d'aile qui secoua Chulain comme un prunier et la fit claquer des dents, Segeni redressa son vol, son ventre frôlant la cime des arbres. Toujours très calme, le résultat d'un entraînement intensif, Chulain observa le mouvement des ailes du Raken et constata qu'il n'y avait pas de dégâts. Peut-être, mais il faudrait qu'un Dermorat Raken l'examine à la première occasion. Si un infime détail pouvait échapper à Chulain, un maître ne le laisserait pas passer.
« Elia, on dirait que nous avons encore échappé à la Dame des Ombres !»
N'obtenant pas de réponse, Chulain tourna la tête et découvrit un harnais de sécurité encore attaché par un bout à la selle vide de sa compagne. Tous les Moratraken savaient qu'ils avaient un jour rendez-vous avec la Dame des Ombres, au terme d'une longue chute. Mais le savoir ne rendait pas les choses plus faciles quand ça arrivait. Après avoir récité une courte prière pour les morts, Chulain se concentra de nouveau sur sa mission. Pour commencer, elle ordonna à Segeni de reprendre de l'altitude, lentement et en volant en spirale, au cas où une de ses ailes serait déchirée sans que ça se voie, mais aussi vite cependant que la raison l'autorisait. La fumée qui montait de derrière la colline intrigua Chulainn. Ce qu'elle découvrit, après avoir survolé la crête, lui glaça les sangs. Alors que ses mains se pétrifiaient sur les rênes, le Rakan continua à monter dans le ciel. La ferme n'existait plus. Dans la cuvette, les bâtiments blancs avaient été proprement rasés. Et ceux qui se dressaient sur le versant d'une colline n'étaient plus qu'un amas de gravats. Des flammes dévoraient les ruines, se propageaient jusqu'au pied de toutes les buttes et s'attaquaient aux oliveraies. Tout était dévasté. Une désolation comme Chulainn n'en avait jamais vue. À coup sûr, il n'y avait plus personne de vivant en bas. Nul ne pouvait survivre à un désastre pareil, quelle qu'en soit la cause. Se reprenant, Chulainn orienta Segani vers le sud. Dans le lointain, elle distingua des Thoraken qui transportaient des points du ciel et des Suldam, des renforts qui arrivaient bien trop tard. Chulainn prépara mentalement son rapport. C'était capital, car il n'y aurait sûrement personne d'autre qu'elle pour en faire un. Tout le monde affirmait que c'était regorgé de marades d'Aman prêtes à être capturées. Mais avec leur nouvelle arme, ces femmes qui se faisaient appeler Aes Sedai étaient très dangereuses. Dans les plus brefs délais, il allait falloir prendre des mesures radicales contre cette menace. Alors qu'elle volait vers Eboudar, la haute dame Souroth serait peut-être d'accord sur ce point, dès qu'elle serait informée de ce désastre.